écologiste Sophie Taillé-Polian. RSF parle donc d'une carence fautive de l'État. Le juge des référés rendra sa décision la semaine prochaine, mais rien n'est gagné, car la cession a eu lieu et qu'il est difficile de revenir en arrière. L'affaire sera jugée au fond.
Elle intervient cette session alors que le groupe CMA-CGM a annoncé, lui, le rapprochement de La Tribune et de BFM Business.
Oui, La Tribune, qui est devenue un média digital, va être réunie dans une rédaction unique avec la radio et télé BFM Business. On y comptera une soixantaine de journalistes qui travailleront pour les deux médias avec, assure-t-on, deux lignes éditoriales. Pourtant, il y aura bien une seule direction avec, là encore, une concentration qui risque d'affecter le pluralisme et donc l'indépendance de l'information par rapport aux grandes puissances économiques. C'est ce que cherche à empêcher le règlement européen, mais la mise en pratique n'est pas gagnée. On le voit aux Échos où il n'y a pas eu un mot de la saisine du Conseil d'État à propos de Challenge.
La chronique des médias avec Amaury de Rochegonde. Et dans une minute, le journal international.
Ce dimanche sur RFI,
Congis ou délices de riz.
Le goût du monde, Clémence Denavy.
On l'appelle congis en Chine, okayu au Japon, juk en Corée, chao au Vietnam ou fondé au Sénégal. Le riz se délite, se fond dans l'eau à midonner. Certains laisseront le bol comme ça, vierge. D'autres ajouteront des pickles, de la viande séchée, un peu de sauce, des arachides. Congis ce dimanche à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde, Clémence Denavy sur RFI.
RFI, la sélection du mois.
Harry Lennox et Buju Benton. Jazz Monkey.
Bonjour chers auditeurs, je suis ravie d'être avec vous et honorée de vous proposer cette nouvelle émission intitulée Repartons. Repartons, c'est la rencontre de lieux, de professionnels et passionnés afin d'évoquer des sujets qui font notre quotidien et nous interrogent.
Aujourd'hui, je vous propose le deuxième volet consacré à la Maison de la Recherche en Santé Mentale. Dans le premier épisode, j'ai eu l'honneur d'interviewer Lydie Doré, directrice des recherches, et Héloïse Yang, pédopsychiatre. Nous avions parlé de la santé mentale des enfants et des adolescents, des réalités parfois difficiles mais essentielles à aborder. Pour ce deuxième temps, je suis allée à la rencontre de Romain Taton, docteur en psychologie et neuropsychologue, également chercheur au sein de cette nouvelle structure. Avec lui, nous avons exploré les troubles du neurodéveloppement, comme l'autisme ou le TDAH, des sujets qui suscitent beaucoup de questions, parfois des inquiétudes, et qui méritent d'être expliqués avec clarté. Avant d'entrer dans le détail de ces troubles, j'ai souhaité repartir des bases. Donc, docteur Taton, dites-nous, qu'est-ce que la neuropsychologie ?
La neuropsychologie, c'est une des dimensions qui va plutôt s'axer sur les mécanismes cérébraux, qui place le cerveau un petit peu au cœur du fonctionnement de l'individu. Et les neuropsychologues travaillent sur des outils psychométriques et sont identifiés pour utiliser des outils techniques qui permettent de comparer le fonctionnement individuel à des grandes cohortes, des statistiques plus générales pour identifier et mieux comprendre le fonctionnement de l'individu à travers le fonctionnement de son cerveau. Voulant très rapidement me spécialiser dans l'autisme et dans le handicap, qui va aller chercher les approches qui sont recommandées, qui vont être identifiées par la recherche comme étant les plus pertinentes pour ce public-là. Ce qui m'a amené à me former dans les approches développementales, dans les approches cognitives, dans les approches comportementales. Je me suis très vite intéressé au handicap. J'ai été amené à rencontrer des personnes avec autisme, ce qui m'a intéressé de mieux comprendre, pour mieux les aider, mieux accompagner ces personnes, leurs familles, leurs parents. On estimait qu'il n'y avait pas plus de personnes qui avaient de l'autisme, par exemple. Il n'y en avait pas tant plus qu'on était meilleur à les identifier, à les repérer, notamment des formes qui pouvaient être plus à la marge, qui peut-être il y a 30 ans n'auraient pas amené un diagnostic, alors qu'aujourd'hui, notre connaissance des troubles font qu'on est plus à même d'identifier les besoins de ces personnes-là. Donc, factuellement, il y en a plus. Maintenant, depuis une dizaine d'années, on met en évidence qu'il y a de plus en plus de personnes qui présentent ces difficultés-là. Et on identifie l'autisme comme un trouble plurigénétique multifactoriel. Pour évoquer plurigénétique, c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs gènes qui seraient concernés, En fait, on n'a pas un gène, on n'a pas des centaines de gènes, on a des milliers de gènes qui sont potentiellement concernés et impliqués. Et de plus en plus, on met en évidence que des personnes pour lesquelles on confirme un diagnostic de TSA, nous, cliniquement, quand on va ensuite aller regarder au niveau génétique, on va observer plein de gènes qui sont mutés. Mais ce n'est pas systématique. Et il y a aussi des personnes qui ont ces mutations génétiques, mais qui n'ont pas de TSA. Donc c'est plurigénétique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dimensions qui rentrent en compte. Certains des gènes sont plus forts que d'autres. Certains, s'ils sont mutés, il y a plus de chances qu'il y ait de l'autisme. Une des questions souvent que les familles nous posent, c'est de se dire, mais alors, si c'est génétique, est-ce que c'est moi qui ai transmis ? Alors, il y a des gènes qui peuvent être transmis, effectivement. C'est pour ça qu'on peut retrouver des familles dans lesquelles il peut y avoir des prédispositions. Mais on a aussi des gènes qui sont des mutations dites de novo, c'est-à-dire que c'est au moment de la fondation de l'individu que, pouf, la mutation apparaît. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir les mutations génétiques, mais que ça ne s'exprime pas au niveau de l'évolution de l'individu. Plurigénétique, je le disais tout à l'heure, multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a d'autres facteurs environnementaux qui rentrent en compte et qui peuvent augmenter la prévalence du TSA. Le fait que la mère, pendant la grossesse, soit exposée à des dimensions de l'environnement, vont jouer un rôle en prévenant parfois de l'autisme, en augmentant le risque que survienne une forme d'autisme. Certaines dimensions sont connues, certaines dimensions, on a cru que, on a fait des études, on a montré que non. Aujourd'hui, on sait que ça n'a pas d'impact. Les vaccins, pas d'impact. Le fait d'avoir un vaccin n'augmente pas la prévalence de l'autisme chez l'enfant. L'éducation des parents, pas d'impact. Ça, c'est très important aussi de souligner, parce que longtemps, on a cru qu'il y avait un rôle de la posture parentale. Donc aujourd'hui, on sait que tout ça, c'est balayé, c'est vraiment plus du tout d'actualité. Une des plus essentielles, les pesticides. L'exposition aux polluants, les pesticides, aujourd'hui, c'est véritablement une des dimensions qui, dans la littérature, est marquée comme ayant un rôle très important. On peut avoir des publications plus récentes, par exemple, qui soulignent que le fait d'habiter, selon l'étage dans lequel vous habitez en ville, l'exposition aux pots d'échappement, par exemple, peuvent jouer un rôle. Alors, on ne peut pas dire que vous êtes une femme enceinte, vous êtes exposée aux pesticides, boum, votre enfant sera TSA, ça ne marche pas comme ça. Mais ça augmente la probabilité, ça augmente les risques. Et cette dimension-là, elle est bien identifiée, on sait, on a bien montré en superposant des cartes sur lesquelles on voit les zones d'épandage, et on voit bien le parallèle des cartes entre les zones d'épandage et l'augmentation du trouble du neurodéveloppement chez les enfants. Quand on a une école maternelle et qu'à côté on a un champ de vigne, quand on va répandre les produits, la probabilité que les enfants ils soient exposés à des étapes très précoces de leur développement, c'est vraiment quelque chose de préoccupant. Et pour mieux connaître ça, par exemple, la cohorte Marianne, qui est une démarche nationale, là, on va étudier chez des familles qui ont déjà un enfant avec autisme et qui ont un projet d'enfant. Il va y avoir des questionnaires, des petits prélèvements pour la maman pendant la grossesse, des prélèvements au moment de l'accouchement. Et en fait, on va suivre les bébés par la suite. Moi, dans ce cadre-là, je rencontre des bébés régulièrement, de 0 à 6 ans. C'est une étude qui est lancée depuis très peu de temps, à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et on va, pendant 10 ans, continuer à suivre des bébés comme ça. Les bébés, on va les évaluer régulièrement. On va leur proposer des évaluations cognitives, des évaluations neuropsychologiques, des démarches de ce type. Et on va aussi chercher à regarder avec des prélèvements d'ongles, de cheveux, de sang à des étapes de la vie, notamment pour l'enfant tout petit, pour essayer de voir si on retrouve ce type d'éléments, type pesticides et autres polluants qui peuvent être connus pour voir est-ce que, à terme, quand on aura suivi tous ces enfants de la cohorte, est-ce que parmi ces enfants où éventuellement on aura mis en évidence la survenue d'un autisme, aux âges où c'est adapté, est-ce que quand on va regarder les premières étapes du développement lorsqu'ils étaient bébés, ils étaient exposés à plus de polluants, moins de polluants, plus de facteurs, moins de facteurs, plus de difficultés. Et toutes ces dimensions-là sont croisées de manière à essayer de faire du lien et de comprendre, de mieux comprendre comment les choses se développent. Vous me posiez tout à l'heure la question de savoir, dans la recherche, est-ce qu'on étudie la nature du trouble, la cause du trouble, le développement du trouble, l'origine du trouble ? Eh bien, en fait, la totalité est impliquée, puisque quand on se focalise sur une des dimensions, on ne peut pas faire l'économie des autres. Donc, on est obligé de mesurer l'ensemble. D'aller à un moment poser la question de voir comment fonctionnent les gènes et est-ce qu'il y a des gènes mutés chez ces enfants-là pour lesquels en parallèle on met en évidence certains types de difficultés, c'est ça qui va être intéressant et c'est l'ensemble en fait qui va permettre de mieux comprendre l'évolution des individus pour mieux les accompagner. Parce que les accompagner eux, ça passe aussi par l'accompagnement des familles, de leurs parents et de leur environnement au sens large, les professionnels qu'ils accompagnent, les autres camarades. Il est fréquent d'avoir des enfants, des adolescents avec autisme ou troubles du neurodéveloppement plus généralement, qui nous interpellent sur ces questions-là. Le fait de proposer des sensibilisations, d'expliquer aux autres enfants ce qu'est l'autisme, ce qu'est le trouble du neurodéveloppement, et bien c'est une dimension qui va être très importante. Et pour finir, sur la prévalence, donc, elle augmente un petit peu. Aujourd'hui, la prévalence de l'autisme en France, elle est identifiée à 1 à 2%, là où les troubles du neurodéveloppement, au sens large, dans lesquels on va retrouver le trouble du développement intellectuel, ce qu'on appelait auparavant la déficience intellectuelle, donc elle est ici, Les troubles scolaires sont là aussi, dysgraphie, dyscalculie, dysorthographie, etc. Le TDAH, dont vous parlez tout à l'heure, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, tous ces éléments-là appartiennent aux troubles du neurodéveloppement. Ça représente 10 à 15% de la population, des enfants. Donc c'est pas du tout négligeable.
Le neuropsychologue étudie le cerveau pour mieux comprendre chaque personne grâce à des tests comparant ses capacités à la population générale. Aujourd'hui, l'autisme touche 1 à 2% des Français, en hausse à cause d'un meilleur dépistage de facteurs génétiques et environnementaux, comme l'exposition aux polluants pendant la grossesse. Au total, les troubles du neurodéveloppement, dont l'autisme, le TDAH et les troubles intellectuels, concernent 10 à 15% des enfants, et mieux les comprendre permet un accompagnement plus adapté pour eux, leur famille et l'école.
La neurodivergence, les troubles du neurodéveloppement sont quand même mieux connus dans la population. Les gens ne sont pas forcément capables de vous donner la bonne définition. Mais si vous interrogez quelqu'un au hasard dans la rue et vous lui demandez s'il connaît l'autisme, s'il connaît le TDAH, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il y a 20 ans qu'il soit capable de vous dire oui. Il n'aura pas forcément une bonne définition ou une définition précise, mais c'est quand même fréquent. Moi, aujourd'hui, dans les personnes qu'on peut suivre, il y a énormément de gens qui, facilement, se demandent si eux-mêmes ne présentent pas un TDAH. C'est pas tant de dire oui ou de dire non, parce que nous, psychologues, c'est pas tant la vérité ultime qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire, selon vous, que vous avez un TDAH? Et selon la réponse de la personne, c'est toujours le reflet d'une forme, d'une certaine petite inquiétude. Maintenant, est-ce qu'elle est légitime? C'est-à-dire que cette inquiétude-là, effectivement, elle est cohérente avec les critères diagnostiques du TDAH? Ou alors, est-ce que c'est juste le reflet d'une pression que l'on se met sur l'idée de la performance, de faire ça, là j'arrive pas à me concentrer, je suis pas assez efficace là-dessus. Et qu'en réalité, quand on voit ce qui amène la personne à s'interroger sur son TDAH, souvent il peut y avoir quelque chose plutôt de l'ordre d'un trouble anxieux, d'une anxiété de performance, d'un souci, de quelque chose qui va être différent. Et pas forcément les réels critères diagnostiques du TDAH. Et c'est dans ce sens où, pour les professionnels de santé, il est important d'avoir un apport de connaissances sur le sujet pour savoir de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que le TDAH en réalité, et d'être en capacité de le repérer, de conforter, de confirmer une inquiétude dans ce sens, d'orienter vers un professionnel qui va être en mesure de poser le diagnostic. Et ici, pour le TDAH par exemple en particulier, dont on parle énormément sur les réseaux sociaux parce qu'il y a énormément de vidéos TikTok ou autres qui traitent ce sujet-là, avec beaucoup de personnes aussi qui témoignent de leurs difficultés personnelles, avec une confusion entre l'expression de la singularité d'un individu et l'expression globale de la définition d'un trouble. Pour revenir sur l'autisme, par exemple, il y a des personnes qui peuvent parler de leur autisme sur les réseaux sociaux, très bien, mais ça reste leur autisme. Il peut arriver que des adolescents, par exemple, qui viennent pour un diagnostic me disent « Mais bah non, moi je peux pas être autiste parce que je suis pas du tout comme Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, une série américaine, où la personne n'est jamais dit qu'il est autiste, mais son fonctionnement est quand même très typique de ce qu'on appelait avant un syndrome d'Asperger. » On retrouve presque le côté poussé à l'extrême des caractéristiques, de certaines caractéristiques de l'autisme. Donc c'est plutôt cohérent. D'où la notion de spectre. Il y a plusieurs façons d'exprimer l'autisme, en l'occurrence. Et c'est pas parce que vous ne correspondez pas à l'une de ces façons que vous n'êtes pas pour autant vous-même concerné par l'autisme. Et tout l'enjeu de sensibiliser les professionnels, les soignants, les enseignants, et autant que possible les familles, quand quelqu'un a eu un diagnostic de TSA par exemple, on sait que ça fait partie de recommandations, de lui proposer à son entourage, à sa famille, de bénéficier de formations, de sensibilisation. Des formations, le CRA propose la formation des proches aidants, par exemple, qui sont gratuites. Il n'y a pas de surcoût financier, en fait. Elles peuvent venir à des formations comme ça qui leur présentent l'autisme en général, les comportements problèmes, ce genre de choses. Des difficultés, des comportements sexuels. Cette thématique-là est aussi une thématique très importante pour accompagner les personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement afin de s'épanouir dans leur intimité, au même titre que n'importe qui a besoin de s'épanouir dans son intimité. Quand on a un TDAH, votre disponibilité, elle ne va pas être la même. Mais un enfant TDAH, dans ses passions, c'est l'école, eh ben, la motivation ou l'intérêt qu'il aura pour l'école peut aider à compenser largement ces difficultés qu'il a à rester concentré, à être attentif. Mais parce que pour lui, ça l'intéresse énormément. Un autre enfant qui aurait, on imagine, le même niveau de TDAH, mais où lui, sa passion, c'est le sport, et que du coup, l'école, moins... Eh bien, il a moins de chances que les autres enfants, mais en tout cas, il aura moins d'opportunités, il aura moins de fenêtres pour se saisir des opportunités d'apprentissage. Et c'est pour ça que pour la question du traitement médicamenteux dans le TDAH, c'est une discussion à avoir avec le médecin. Une fois qu'on a bien confirmé qu'il n'y avait pas de contre-indication physique ou de particularité individuelle qui ne permettent pas qu'on introduise le traitement, être sûr qu'il n'y a pas de problème cardiaque, eh bien, une fois qu'on a écarté ça, il y a la possibilité d'introduire le traitement pour le TDAH. Par habitude, je peux vous dire que ce traitement, il a l'avantage d'être assez efficace au sens où quand il est introduit, très vite, on voit les résultats. C'est l'histoire d'une journée, deux jours, tout de suite, il voit une différence énorme. C'est-à-dire que si ça ne change rien pour la personne et qu'elle n'est pas réceptive au traitement, eh ben on va le savoir tout de suite. Il n'y a pas non plus d'effet d'accoutumance. Il n'y a pas d'effet secondaire majeur. Et le dernier aspect aussi, c'est que la personne, elle peut maîtriser sa prise de traitement. C'est-à-dire que dans le TDAH, elle peut identifier que l'enfant, par exemple, quand il est à l'école, tout va bien, mais il sait que souvent le vendredi, c'est difficile, parce que c'est la fin de la semaine, c'est plus dur. C'est les matières qui l'intéressent moins. Et bien, il peut aussi faire le choix de ne prendre le traitement que le vendredi. Il n'est pas obligé de le prendre tous les jours. Il peut y avoir un traitement comme ça qui s'ajuste. Des adultes qui ont un TDAH, par exemple, peuvent avoir le traitement et ne le prendre que s'ils sont exposés à une réunion très importante ou quelque chose qui aujourd'hui a un enjeu et qui font que leurs petites stratégies personnelles pour essayer de réguler leur attention vont être éprouvées davantage ou ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc il y a cette idée-là. Le traitement n'est pas une nécessité absolue, ça doit être discuté avec le médecin. Il est important de prendre en compte globalement la vie de l'individu et pas juste, il y a un TDAH, mais quels sont ses intérêts, quels sont ses besoins, comment elle évolue, comment ça va sa vie globalement. N'oublions pas que d'avoir un TND, ça expose à plus de troubles de ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des troubles qui viennent se greffer à l'autisme, au TDAH. Et notamment, des personnes qui présentent un trouble neurodéveloppement ont plus de probabilités d'être exposées à un trouble anxieux, à de l'anxiété, à de la dépression, au passage à l'acte suicidaire que quelqu'un d'ordinaire. Elles ont un poids à porter sur leurs épaules supérieur à celui des autres enfants. Un autre enfant qui n'a pas de TND, s'il est exposé à quelque chose, eh bien il a plus de ressources, plus d'énergie. Alors qu'un enfant qui a un TND, il a déjà beaucoup dépensé d'énergie pour contrebalancer les répercussions négatives de son autisme ou de son TDAH par exemple. Sans oublier les enfants qui ont et de l'autisme et un TDAH. Dans les troubles du neurodéveloppement, la règle c'est plutôt d'en avoir plusieurs. Plus on en a, plus on a de risques, plus on a de probabilités d'en avoir. Donc du coup, ces enfants-là doivent faire face à plus d'obstacles et donc peuvent être plus vulnérables à un épuisement, une fatigue ou un trouble anxieux par exemple. Ça ne veut pas dire que tous les enfants. Certains s'en sortent très bien et il y a des enfants qui n'ont pas du tout de TND, qui n'ont pas de facteur de risque et qui pour autant sont exposés à de la dépression, à des difficultés de ce type-là. Tout l'enjeu pour nous, c'est de connaître ces risques-là et de prévenir, d'accompagner et de sensibiliser les familles, les professionnels pour qu'ils repèrent mieux ça et qu'on ne passe pas à côté de quelque chose sous prétexte du c'est le TDAH, alors que non, ça c'est la dépression. C'est pas juste parce que l'enfant va prendre le traitement qu'il va plus être exposé à la dépression. Il faut être vigilant sur toutes les dimensions et qu'un enfant qui a un TDAH et qui prend son traitement, comme n'importe quel enfant, le soir quand il rentre, eh ben c'est toujours intéressant qu'à un moment on lui demande comment s'est passée sa journée, qu'est-ce qui s'est passé. Et souvent, ce qu'on pense pas à faire, c'est comment s'est passée sa journée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a eu des échanges agréables? Est-ce qu'il y a des choses qui l'ont crispé? Et donc, être vigilant à l'enfant, à son bien-être, comme avec n'importe quel enfant, qu'il ait ou pas le traitement pour TDAH, c'est quelque chose qui va être très important. Pour faciliter la communication, faciliter le lien, donner à l'enfant l'opportunité qu'il puisse communiquer. Parfois, il ne le fera pas. Mais au moins, il peut être rassuré et sécurisé parce qu'il sait qu'il a cette possibilité-là. Est-ce que le traitement va augmenter la probabilité de ces risques-là? Il n'y a pas forcément de lien direct parce que ce qui va augmenter la probabilité de ces différents risques, c'est les facteurs dans la vie en général qui vont accentuer ça. On va donner un exemple concret. Un enfant qui a un TDAH, qui reste à la maison parce qu'il n'arrive pas à se concentrer et on s'interroge sur une phobie scolaire. Le fait qu'il prenne le traitement, il va être un petit peu plus à l'aise pour l'école, il va aller à l'école. Quelques semaines après, on va identifier qu'il y a du harcèlement et qu'il va développer une forme de dépression plus avancée. Question, est-ce que c'est l'introduction du traitement qui a provoqué ça? On est incapable de répondre à cette question. Ça a été une des dimensions qui a, dans un ensemble, amené à ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant de bien comprendre que d'un traitement médicamenteux, il n'est jamais à considérer seul, mais à considérer que dans une prise en charge globale du patient et de l'état de ses difficultés. Quand vous allez consulter un médecin, par exemple pour un TDAH, pour avoir une question de diagnostic et vous voulez savoir s'il faut ou pas introduire le traitement, le médecin, il ne vous dit pas TDAH, ok, voilà le traitement, au revoir. Il vous demande comment ça se passe en ce moment, comment ça se passe à l'école, c'est quoi sa vie, qu'est-ce qui s'est passé avant, comment dans la famille, comment ça se passe. Il va chercher à identifier, est-ce que dans la famille, il y a plus de risques anxieux? Est-ce qu'il y a des éléments notables dans la famille proche? Et c'est pour ça qu'il y a un long entretien qui va précéder. Et c'est le recueil de toutes ces informations-là qui vont permettre au médecin de mieux appréhender le patient dans sa globalité pour, à partir de là, vous faire une proposition, une prescription du traitement, de l'usage. Et ensuite, une fois que le traitement est introduit, il y a un suivi. C'est-à-dire que le médecin, vous le revoyez pour refaire le point d'où on en est. Est-ce que le dosage est correct? Il faut l'ajuster? Et est-ce que, globalement, la vie, comment ça va? Est-ce qu'il faut prendre d'autres dimensions en compte, en plus du traitement du TDAH, par exemple?
Aujourd'hui, le grand public connaît mieux des termes comme l'autisme ou le TDAH, mais leur définition reste parfois floue. Avec les informations des réseaux sociaux, certaines personnes s'interrogent sur elles-mêmes. Le rôle des professionnels est donc non seulement de poser un diagnostic, mais aussi de comprendre l'origine des difficultés. Des troubles comme le TDAH peuvent parfois être liés au stress ou à l'anxiété, et il est important de ne pas confondre une particularité avec un véritable trouble. Quand un traitement médicamenteux est bien adapté, il peut être efficace rapidement et utilisé de façon ciblée, par exemple à l'école ou dans des situations demandant beaucoup de concentration. La motivation ou l'intérêt pour certaines activités peut aussi aider l'enfant à compenser ses difficultés.
Il faut mettre moins de pression. Et donc c'est intéressant de remettre les choses en perspective et se dire de quoi tu as besoin toi pour être heureux. Qu'est-ce qui est un obstacle aujourd'hui au fait de te sentir heureux? Alors bien sûr, t'es adolescent, donc c'est compliqué l'adolescence. Alors, certains plus que d'autres, ils ont pas forcément envie d'en parler, encore moins avec leurs parents. Mais en tout cas d'identifier que ses besoins aujourd'hui dans la vie, ce qui vont être utiles pour se construire en tant qu'individu, son cerveau, ses émotions, toutes ces dimensions-là, pour être un adulte épanoui demain, de quoi il a besoin aujourd'hui? Clairement, d'expliquer à un adolescent que son contrôle de maths de la semaine prochaine, dans 10 ans, ça n'existera plus pour lui, ça sera complètement différent. D'investir aujourd'hui sur sa santé mentale, c'est important parce que dans 10 ans, votre adulte, l'adulte que vous serez plus tard, il vous remerciera du temps que vous avez passé et du temps que les parents ont passé avec vous ados pour consolider une santé mentale solide. Ça peut être, par exemple, pour quelqu'un qui a un TDAH, de s'interroger sur l'intérêt du traitement. Mais d'introduire le traitement, c'est pas gravé dans le marbre non plus. On peut le mettre, on peut le retirer, on peut le remettre plus tard, on peut se dire, bah, en ce moment, ça va. Et là, j'en échange avec le médecin qui va identifier quel traitement serait le plus pertinent pour lui dans ce contexte-là. Et que l'école, c'est important aujourd'hui, mais il faut arriver à s'en détacher aussi que c'est pas l'école qui fait votre vie. Tous les adultes qui sont là dans cette pièce, peut-être ceux qui nous écoutent, ont le souvenir d'avoir eu à un moment une mauvaise note ou quelque chose quand on était au collège ou au lycée qui était une catastrophe, mais souvent il faut chercher. Ce qui était une catastrophe, c'était la personne, votre crush de l'époque, qui vous a ignoré pendant 2 jours. Ça, c'était une catastrophe et sans doute que vous en souvenez. Mais de savoir que le contrôle de maths que vous avez travaillé, que vous avez une mauvaise note et que vous vous dites « Ah là là, je suis foutu » et qu'en fait, ça n'a eu aucun impact puisque vous avez grandi, vous avez travaillé, vous avez développé vos intérêts, vos compétences. Et ce qui était si important pour vous à l'époque, ça a disparu aujourd'hui. Quand, avant Pronote, un ado qui avait une mauvaise note à l'école, il anticipait « Qu'est-ce que les parents vont dire? Comment je vais leur dire ?» Il pouvait maîtriser ça, il s'entraînait à gérer cette émotion un peu négative et l'appréhension de la réponse du parent. Du coup, il y pensait. Peut-être que le soir même, il n'avait pas le courage, il ne disait pas. Donc il prenait sur lui, il disait l'autre jour, il cherchait des stratégies. Et il s'entraînait comme ça à développer des compétences sociales qui, dans un contexte où c'est important l'école, il disait, mais il n'y a pas non plus d'urgence. C'est-à-dire que, au final, la mauvaise note, elle est là. Les parents vont réagir plus ou moins bien, mais c'est une façon de s'entraîner à annoncer une mauvaise nouvelle, s'entraîner à gérer des rapports avec nos parents, nos proches, des gens qui attendent des choses de nous. Et quand vous grandissez et qu'après vous êtes étudiant, que vous êtes adulte dans le monde du travail, et cette compétence-là, vous êtes tout le temps en train de la mobiliser. Parce qu'il y a toujours un moment, alors certains plus que d'autres, mais la nécessité de devoir donner une information à quelqu'un et d'avoir eu l'occasion de s'entraîner à le faire avec des compétences sociales meilleures et une régulation des émotions meilleure quand on est enfant, quand on est adolescent, où il n'y a pas forcément d'enjeu, et c'est mieux que d'attendre le moment où on est adulte et où là, il y a des enjeux. Et que Pronote, quelque part, prive les enfants de cette capacité-là. Les enfants vivent aujourd'hui avec Pronote comme d'autres ont vécu avec d'autres outils. L'intérêt aujourd'hui, c'est pas de dire Pronote c'est mal, il faut le retirer, parce que c'est là. C'est de se dire comment on permet aux enfants, aux adolescents, d'évoluer dans un monde où on leur donne d'autres opportunités de travailler ses compétences sociales, relationnelles, autrement. Parce que ce qui compte, c'est pas d'annoncer la mauvaise nouvelle aux parents. Ce qui compte, c'est de s'entraîner à cet échange, à ces interactions et la régulation des émotions que ça implique dans notre vie d'adolescent. Qu'on le fasse à travers une note ou qu'on le fasse à travers autre chose, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on le fasse. D'où l'enjeu de travailler sur des discussions, des échanges. Finalement, si l'ado, il ne s'entraîne pas en ayant dire à sa mère qu'il a une mauvaise note, mais qu'il s'entraîne en le disant à sa mère autre chose, ou que comme il a fait des jeux vidéo avec elle par exemple, et que là, y a un truc qu'il n'a pas réussi, ou que finalement, là, ils sont dans un jeu en réseaux sociaux et que sa mère a joué avec lui, mais qu'elle n'est pas très bonne et qu'il doit expliquer à sa mère que dans son groupe sur Internet, elle ne pourra pas participer au raid parce qu'elle n'est pas assez bonne et qu'il faut le dire à maman. C'est une manière de développer des compétences et ça, c'est ça qui compte. Donc, ce qui compte finalement, c'est donner aux ados l'occasion de partir de leur centre d'intérêt pour qu'ils développent des stratégies de communication, d'échange avec leurs moyens, leur langage, leur code, mais qu'en tout cas, tout cela leur permette de s'entraîner à gérer leurs émotions, à comprendre les émotions des autres, à réguler leurs émotions, parce que plus les personnes vont être en capacité de maîtriser ça, plus il y a de chances aussi que ça contribue à un équilibre qui viendrait apaiser le risque de développer des troubles de santé mentale. Et ça aide, en tout cas, à développer plus de ressources. Et plus de ressources, ça vous permet de mieux gérer. Et ça, c'est ça qui compte. Si on n'a pas toutes les règles, il faut faire avec les règles qu'on a et développer des stratégies pour pouvoir mieux jouer. Le TOP, c'est une autre catégorie que dans les TND. Le TOP ne figure pas parmi les troubles du neurodéveloppement, c'est dans d'autres classifications. Ça existe, c'est quelque chose qui peut être aussi présent. Le TOP va être caractérisé par vraiment cette incapacité à réguler ses colères. En fait, quelque part, à chaque fois qu'on lui propose quelque chose qui n'est pas spontanément ce que lui aurait voulu, ce qu'il veut faire, eh ben, s'opposer en permanence et être dans la contestation, mais systématique. Et ça, c'est important de le distinguer de la phase du jeune enfant ou de la phase du non pour le tout petit et la phase de l'ado où, par principe, l'ado n'est pas d'accord avec vous. Néanmoins, l'ado, si vous vous amenez les choses pour être d'accord avec lui, bah, il peut être content. Et qu'à un moment, tout le monde a besoin de tester la résistance du cadre familial pour s'assurer qu'il va évoluer dans un cadre sécurisant. Donc de tester quelque part un petit peu les limites, c'est une étape qui peut être nécessaire. Maintenant, le TOP, lui, ne peut pas faire autrement, c'est complètement envahissant, et c'est peu probable. C'est pas du tout quelque chose de fréquent dans la population. Et que souvent, il y a des familles ou des parents qui s'inquiètent parce qu'ils ont entendu parler du TOP, et comme leur enfant, leur ado, est jamais d'accord avec eux, est tout le temps dans la contestation, pensent que ça peut être un TOP. Et c'est ici que d'aller consulter un professionnel, et comme pour le TDA, poser la question, comment ça va la vie globalement, qu'est-ce qui s'est passé avant, les antécédents familiaux. Toutes ces dimensions, ce qu'on appelle nous l'anamnèse, le parcours de vie global de l'individu, pour mieux appréhender son fonctionnement aujourd'hui, sa vie aujourd'hui, et pour identifier quelque part un peu ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'on va chercher qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait expliquer ce comportement-là. Par exemple, pendant l'adolescence, il peut y avoir des enfants, des adolescents en particulier, qui sont très contestataires, voire violents, et qui peuvent faire preuve d'une agressivité décuplée auprès de leurs parents, auprès des frères, des sœurs, alors que jusqu'à présent, les parents décrivent la personne plutôt comme plutôt calme et bienveillante. Et donc, je pose cette question-là, d'identifier qu'est-ce qui pourrait amener ça. Il arrive que des personnes qui sont victimes de harcèlement vivent tellement mal le fait d'être attaquées en permanence dans un milieu scolaire qui n'est pas sécurisé pour eux, ce qui les amène pour essayer de retrouver un équilibre à, dans un environnement qui est sécurisé pour eux, dans lequel ils ont confiance, où ils savent qu'il n'y aura pas forcément de répercussions négatives pour elles, ils vont attaquer cet environnement-là. Finalement, ils déplacent à la maison la contre-attaque qu'ils n'arrivent pas à déployer dans l'école parce que l'environnement est insécure ou trop risqué pour eux. Alors qu'à la maison, ils savent que c'est sécure, je suis en sécurité, donc je peux m'autoriser à être un petit peu plus dur, vindicatif. Et quand on va gratter, ça va être tout notre travail, d'identifier qu'est-ce qui fait que la personne réagit comme ça à la maison. Est-ce que c'est parce qu'à l'école ça se passe mal et que j'en peux plus, je souffre trop, donc je me défoule à la maison parce qu'à l'école je dois prendre sur moi, parce que j'ose pas me défendre, parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait être gentil, pas attaquer, pas faire de mal, et que ça c'est difficile pour l'adolescent. Est-ce que c'est parce qu'il y a autre chose? Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Dans la prévention des violences au sens large, dans la question de la gestion du trauma, du traumatisme, notamment pendant l'enfance, il peut y avoir des dimensions comme ceci qui s'accumulent et qui font qu'à un moment, la personne explose. L'explosion, c'est la conséquence de qu'est-ce qui s'est passé avant et qui fait qu'aujourd'hui, ça a explosé. On peut parler très longtemps de comment ça a explosé. Souvent, c'est plus intéressant de savoir qu'est-ce qui a amené l'enfant à exploser. Notamment pour établir avec lui, quel que soit son profil, la confiance, l'alliance qui va être nécessaire pour qu'il se sente à l'aise de pouvoir expliquer que oui, lui, il tape sur ses camarades à la cour de récréation, il peut pas faire autrement. Et que c'est trop facile qu'on lui dise, c'est pas bien, c'est mal, qu'on amène de la morale. Alors que l'idée, c'est plutôt de l'accompagner pour comprendre qu'est-ce qui, dans son cheminement à lui, a fait qu'il a pas pu faire autrement à ce moment-là que de faire ça. Et déjà de le respecter, lui, en tant qu'individu, pour comprendre les mécanismes qui l'ont amené à faire ça, et éventuellement identifier sur quel levier on va pouvoir jouer pour faire en sorte que, il trouve d'autres stratégies qui soient respectées dans sa souffrance, sa singularité, et que, ainsi, on lui permette de développer un répertoire plus adapté de comportements. Si la personne, elle vient et que moi je lui dis directement, c'est pas bien de taper, tu le sais que c'est pas bien de taper, donc tu feras ça, tu seras puni, je vais juste creuser encore plus le fossé de cet enfant qui n'a pas de moyen d'être entendu dans sa souffrance et qui, du coup, je l'ancre encore plus dans l'idée de, je vais moi-même le punir, donc je lui montre que la punition, c'est le moyen de résoudre les problèmes. Et donc lui, taper, c'est une manière de punir. Ça peut être aussi, les personnes avec un trouble de neurodéveloppement peuvent présenter ça. Mais c'est pas exclusif. C'est aussi quelque chose de très lié au système d'éducation, à la présence d'adultes, à comment est-ce que l'adulte va être sécurisant. Et avec un petit peu l'idée, si vous voulez, qu'un enfant qui arrive là et qui a tapé, par exemple, si moi je lui dis c'est pas bien de taper, t'es puni, je pense que l'enfant va faire ce que je lui dis. Or, un enfant, il fait pas ce que vous lui dites, un enfant, il fait ce que vous faites. Alors que si l'enfant, il vient et que moi je lui montre de l'accueillir et lui dire bon, voilà là, t'as pas pu faire autrement, c'était dur pour toi, t'étais en colère, qu'est-ce qui t'a mis en colère? Et que je lui montre là qu'il peut parler, qu'il peut écouter, j'ai beaucoup plus de chances que ensuite, il soit réceptif à des stratégies après que je travaille avec lui en disant « Mais la prochaine fois que tu es en colère, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux venir voir l'enseignant. » Parfois, c'est trop dur, j'arrive pas à faire autrement. Et c'est tout l'enjeu de discuter, d'amener un échange, d'amener l'enfant à verbaliser ses émotions, les cheminements qui sont utiles, et de déconstruire aussi la réponse un peu systématique qu'on va pouvoir avoir et qui, parfois, ne peut faire que accentuer les comportements problèmes de la personne.
Il est important de prendre du recul face à la pression scolaire. Une mauvaise note n'impacte pas la vie future de l'enfant. L'essentiel est de comprendre ses besoins et de préserver sa santé mentale. Les outils numériques peuvent générer du stress, mais apprendre à gérer ses émotions et les réactions